France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Donald Trump, on le sait, a la passion des droits de douane. S'il vient de faire volte-face sur leur augmentation, à l'exception de la Chine, il aura réussi en 10 jours à ébranler les marchés financiers et figer les échanges, fragilisant la parole des États-Unis, plongeant dans l'incertitude les acteurs économiques comme les gouvernements. Donald Trump nourrit aussi une autre obsession, l'énergie. Son pays doit rester le premier producteur mondial d'énergie. Drill, baby drill, clamait-il pendant la campagne électorale pour signifier aux producteurs de pétrole et de gaz de schiste que, contrairement à l'administration Biden, il les encouragerait à forer au maximum. Il relance aussi l'extraction de charbon. Qu'importe les dégâts sur l'environnement, puisque selon lui, le changement climatique n'existe pas, les agences dédiées ont été supprimées et leurs données effacées. Lundi dernier, dans l'un de ses longs monologues désordonnés dont il a le secret, le président américain réitérait face aux caméras la litanie des reproches adressés aux Européens. Ils ne nous achètent rien, ils nous volent depuis des années, ils doivent nous rembourser des milliards, menaçait-il, avant d'ajouter « il faut qu'ils nous achètent plus de gaz liquéfié ». Le fait est que l'Europe est passée d'une forme de dépendance à une autre, longtemps gavée de gaz russe traversant l'Ukraine par gazoduc, la voilà alimentée depuis les États-Unis en gaz naturel liquéfié, transporté par méthanier à travers l'Atlantique. L'annexion russe de la Crimée en 2014 et 3 ans de guerre en Ukraine ont bouleversé les marchés de l'énergie avec leur cortège de sanctions, une nouvelle géographie des flux et une plus grande volatilité des prix. L'Union européenne importe désormais près de la moitié de son gaz des États-Unis et le paie 2 fois plus cher que les Américains. Dans le bras de fer désormais engagé sur le plan commercial, l'arme du gaz peut-elle être brandie par Washington contre Bruxelles ? Ou le marché européen est-il devenu indispensable aux producteurs ? Quel impact sur les énergies renouvelables ? Donald Trump, lui, veut trouver un accord avec Vladimir Poutine, fût-ce sur le dos des Ukrainiens. Le gaz ferait-il partie de ces négociations-là également ? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous. Anna Créti, vous êtes professeure d'économie à Paris-Dauphine, directrice scientifique de la chaire économie du gaz et de la chaire économie du climat. Anne-Sophie Corbeau, merci 1000 fois d'être avec nous depuis New York. Vous êtes chercheuse au Center for Global Energy Policy de l'Université Columbia. Julien Vercueil, professeur des universités en économie, vice-président de l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Marc-Antoine Elmazega, vous dirigez le Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Thierry Bross, professeur à Sciences Po Paris, senior energy expert, enfin expert énergie senior, à l'Energy Delta Institute. Marc-Antoine Elmazega, on comprend donc que Donald Trump, et c'est toujours le chiffre qu'il cite, on ne sait jamais d'où il sort, mais bon, il exige que les Européens compense quelque 350 milliards de déficit commercial par des achats supplémentaires d'énergie. On n'est plus familier des cours du pétrole, qui ont d'ailleurs beaucoup baissé, le pétrole américain en particulier, qui est en dessous des 60 dollars. On est beaucoup moins familier des marchés du gaz. Il y a plusieurs marchés du gaz.
Il y a effectivement plusieurs marchés du gaz, plusieurs niveaux de prix du gaz dans le monde. Et pour comprendre cela, je crois qu'il faut reprendre un peu l'histoire du gaz dans la seconde partie du XXe siècle, où c'était d'abord en fait une histoire très régionale, concentrée en Amérique du Nord, en Europe et puis en URSS. Puis c'est devenu continental, lorsqu'on a commencé les échanges par gazoduc de gaz entre l'Europe de l'Ouest et puis l'URSS. Et puis, c'est devenu une industrie mondiale. Et à partir, on va dire, des années 80-90, ce mouvement est devenu exponentiel depuis. Si on reprend un tout petit peu cette histoire-là, bien sûr, c'est lié aux grandes découvertes de gaz en Amérique du Nord, et puis en URSS d'ailleurs, en passant, l'industrie gazière de l'URSS est née en Ukraine, et les grands premiers champs étaient en Ukraine, c'était le premier producteur avant que les grandes découvertes ne soient faites en Russie. On a eu, après, en Europe, un essor du gaz dans les années 60-70, parce que c'était la conjonction de deux facteurs. On a fait des grandes découvertes en mer du Nord, aux Pays-Bas, le fameux gisement de Groningue. Et puis, c'était le moment où on a eu le premier choc pétrolier, et il fallait diversifier les bouquets énergétiques, réduire le rôle du pétrole. Et là, le gaz est arrivé de façon absolument utile. C'était une opportunité formidable, parce qu'on a pu le placer dans le secteur résidentiel pour le chauffage, dans le secteur industriel pour réduire l'utilisation du pétrole et puis du charbon, et puis enfin, bien sûr, dans le secteur électrique. Alors, là, on fait ces premiers aussi gazoducs entre l'URSS et l'Europe de l'Ouest. C'était la fameuse ostpolitik de détente, au fond, et on cherchait à créer de l'interdépendance pour essayer, du coup, d'encourager la paix, au fond, et puis de réduire le risque de guerre. Et évidemment, alors là, on a retrouvé à la manœuvre les Autrichiens, puis les Allemands, les Français, les Américains s'y opposaient dans les années 80. Ils ont même mis des sanctions. Mais enfin, tout cela, finalement, s'est poursuivi, et on en a eu l'héritage jusqu'à récemment. Et là où on a une vraie bascule, c'est dans cette mondialisation du gaz qui apparaît parce que, en fait, on commence à découvrir tout un tas de ressources ailleurs. Se développe la technologie du gaz naturel liquéfié, et puis les États-Unis surgissent sur le marché mondial parce que, bien sûr, on ne pouvait pas faire des pipelines à travers l'Atlantique. Et donc, ils surgissent grâce à cette technologie-là et commencent avec l'Australie, le Qatar qui était déjà bien installé, à inonder les marchés de leur gaz. Et donc, vous avez tout un tas de nouveaux consommateurs qui sont apparus, notamment en Asie du Sud-Est.
Et pour les Européens, c'est le moment où on se dit, on va renforcer l'Alliance Atlantique, parce que ça a été aussi cela. De la même manière que Mme Merkel, en tête, disait, on va amadouer les Russes grâce au gaz. On s'est dit ensuite, à cause de la rupture provoquée par l'invasion russe en Ukraine, on s'est dit, on va acheter du gaz aux Américains, ça va renforcer l'Alliance Atlantique, Thierry Bros. Donc en fait, on a l'impression, pour les profanes, qu'on est passé, que l'arme du gaz a été brandie successivement par Moscou et maintenant par Washington.
Brandie et utilisée par Moscou en 2021. Oui, vous avez raison.
2021, pourquoi 2021?
Parce qu'en 2021, c'est avant la guerre en Ukraine que le Kremlin décide de limiter les approvisionnements européens en gaz. Et c'est ce qui fait monter les prix du gaz et ce qui génère la crise énergétique. En fait, la crise énergétique, elle est en France depuis 2021.
Dans l'objectif d'affaiblir les économies européennes.
Et de pouvoir gagner la guerre en Ukraine rapidement, puisque ça, c'était l'objectif dès 2022. Mais si je reviens sur qu'est-ce qu'est une bonne politique énergétique, parce que je crois que c'est ça qu'il faut regarder. Une bonne politique énergétique, c'est la sécurité d'approvisionnement, c'est être maître de son destin. Et effectivement, Churchill le disait, c'est avoir une diversification de ses approvisionnements et ne pas être dépendant d'un ou d'un autre grand acteur. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes toujours dépendants de grands acteurs. Vous évoquiez la Russie, on était dépendant à 40% de la Russie pour notre gaz avant la guerre en Ukraine. Nous sommes aujourd'hui dépendants des Américains pour quelque chose comme 20% de notre demande. Et donc, oui, nous n'avons pas en Europe fait de véritable politique énergétique sur ce sujet gazier, puisque finalement, on a pensé avec le Green Deal que le gaz ne serait plus beaucoup utilisé en Europe. Je vous rappelle qu'il y a 6 ans, la Commission européenne pensait que nous allions transformer notre économie d'une économie gazière à une économie de l'hydrogène. L'hydrogène n'existe pas comme vecteur énergétique.
Oui, c'est l'une des grandes déceptions. Mais le Green Deal, on voit aussi que la Commission, sous la pression des industries en particulier, le Green Deal est en train de réduire comme peau de chagrin. Anne-Sophie Corbeau, vous êtes-vous à New York? Comment interpréter cette volonté présidentielle de renforcer encore la puissance énergétique des États-Unis avec les forages qui sont encouragés? Je crois que le président Trump signe, il adore signer d'ailleurs, il y a toujours des images en gros plan de sa signature, donc il a signé des autorisations supplémentaires de nouveaux terminaux.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que déjà les États-Unis sont le plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié. Sur la base de projets qui sont en construction, et la plupart d'entre eux ont été autorisés sous l'administration Biden, les États-Unis vont doubler ses capacités d'exportation de gaz naturel liquéfié. Mais par contre, l'administration Biden, en janvier 2024, avait pris la décision de stopper les autorisations d'exporter davantage de gaz naturel liquéfié, de donner des permis, en fait, à de nouvelles unités de liquéfaction pour pouvoir regarder davantage des implications environnementales et des implications aussi sur les prix domestiques. Naturellement, la première chose que le président Trump a fait, c'est d'arrêter donc cette pause sur les autorisations d'exportation. Et la deuxième, c'est que le Department of Energy est en train de regarder et d'autoriser progressivement de nouvelles unités de liquéfaction. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces unités de liquéfaction ont besoin de contrats de long terme pour pouvoir en fait boucler le financement. Donc certaines ont été autorisées, mais elles n'ont pas encore décidé de démarrer la construction. Il faut boucler ce financement. Les États-Unis, il faut quand même le rappeler, sont aussi le plus gros producteur de gaz naturel dans le monde, représente grosso modo un quart de la production gazière mondiale. C'est aussi le plus gros producteur de pétrole. Néanmoins, il y a quelque chose qui est très intéressant, en fait, dans cette vision de domination énergétique. C'est que, par exemple, pour le pétrole, le président Trump veut diminuer les prix du pétrole, ce qui est en train de se passer d'ailleurs.
Oui, mais malgré lui, là,
commence à discuter. Oui, mais c'était de toute façon un objectif qu'il avait en tête et qu'il a d'ailleurs donné, dit à de nombreuses occasions. Donc là, c'est en train de se passer. Alors, je viens juste d'arriver à New York, je n'ai pas encore parlé à beaucoup de gens, mais ce que je vois, c'est quand même que la plupart des gens commencent à s'inquiéter énormément parce que à $50 par baril, les producteurs de pétrole américains vont pouvoir maintenir la production, mais vont avoir des difficultés en fait à forer de nouveaux puits. Et étant donné que beaucoup de gaz aux États-Unis est du gaz associé, c'est-à-dire qu'il est produit en même temps que le pétrole, si on a en fait un effet négatif sur la production de pétrole, ça veut dire que ça va renchérir en fait le prix du gaz américain et ça va aller en fait à l'encontre de ce que Trump veut faire, c'est-à-dire aussi diminuer les prix du gaz américain. Il faut voir que les prix sur le marché américain ont à peu près doublé depuis un an. Parce qu'en fait, la demande est particulièrement forte, la production a un petit peu ralenti, et on pourrait voir en fait une continuation de cette augmentation des prix au niveau du marché domestique américain, ce qui pourrait pénaliser un petit peu les exportations et aussi pénaliser un petit peu cette volonté d'exporter à tout prix. Parce que l'attractivité du GNL américain, c'est aussi une activité commerciale.
Une attractivité commerciale et évidemment les besoins d'énergie anacrétiques augmentent avec les data centers, l'intelligence artificielle, tout cela consomme énormément d'énergie. Néanmoins, cette idée qu'il faut produire plus pour exporter davantage, c'est à double tranchant parce que d'une certaine manière, les producteurs, ce sont des entreprises privées aux États-Unis. Les producteurs ont besoin des marchés extérieurs et d'abord du marché européen.
Oui, disons que de toute façon, on n'est pas dans une économie planifiée où les actions, les annonces et aussi les menaces, les guerres commerciales vont être complètement pilotées par Trump. Donc c'est vrai que l'impact sur les prix, comme le disait Madame Corbeau, dépend de toute façon d'un équilibre international. Et si la demande externe derrière aux États-Unis freine pour des raisons qui deviennent, en fait, ce n'est plus même des tarifs. Là, on commence vraiment à être dans une logique de sanctions commerciales. Si cette demande pour les gaz ou les pétroles américains se désamoure en fait de ces produits, bah c'est sûr qu'il va y avoir des réactions en boucle qui ne sont pas favorables aux entreprises américaines. Donc, il y a un impératif de rentabilité, il y a cette recherche des débouchés de la production américaine, parce que même si la demande américaine avait augmenté, cette demande, elle n'est pas éternelle. Si on rentre dans une logique de ralentissement ou de récession, les États-Unis seront touchés aussi. Donc, ils sont maîtres de l'équilibre économique mondial dans les biens et dans le mal. Donc, si la demande internationale diminue, bah, elle importe aussi l'économie américaine. Donc, je pense que c'est vraiment ces mécanismes d'équilibre-déséquilibre qui n'est pas complètement maîtrisé par les actions courantes de Trump et de son administration.
Avec aussi le coût de l'acier et de l'aluminium qui augmente, toujours en fonction de cette, comment dire, de cette inflation tarifaire, disons ça comme ça.
Oui, il y a effectivement, c'est pour ça que je disais, on est vraiment dans une idée de qu'est-ce qui peut se passer. Les États-Unis ont aussi des vulnérabilités de dépendance critique qui, même si Trump veut les résoudre, qui ne seront pas complètement maîtrisés d'ici un mois. Donc, la dépendance de l'économie américaine vis-à-vis des autres économies est aussi les prix à payer. Après, il y a les secteurs automobiles qui, effectivement, un peu au centre aussi de ces contradictions, avec les matières premières que vous citez, donc l'approvisionnement en acier qui est coûteux pour les États-Unis, et également les perspectives sur les prix du pétrole. Donc, d'une part, ça pourrait relancer toute l'industrie automobile, on va dire, classique. En même temps, il y a les contradictions sur les secteurs automobiles électriques. Donc, tout un tas d'incertitudes qui font que, à la fin, les investisseurs sont très frileux. À part Tesla, qui a justement encaissé des problèmes et des pertes énormes, mais sans regarder ces géants qui, évidemment, sont très contestés en ces moments, et c'est toute une filière qui est dans l'attente.
Julien Vercueil, avec vous, partons en Russie, si j'ose dire, parce que là, on a vu que cet outil de la puissance russe, le gaz russe, qui a donc été, qui s'est déversé pour le profit de Gazprom, la grande entreprise d'État russe, mais aussi évidemment pour le profit des Européens à l'époque, et on se souvient à quel point Madame Merkel poussait dans ce sens, avec la baisse du prix du pétrole et le fait que le gaz russe a été en quelque sorte, sinon totalement interrompu, mais fortement ralenti vers l'Europe, cela veut dire quand même pour l'État russe, face aux dépenses militaires exponentielles entraînées par cette guerre qu'ils ne parviennent pas à gagner, le gaz devient, sinon un problème, en tout cas une arme moins opérationnelle.
Oui, alors le gaz a toujours été, bien avant Gazprom, et d'ailleurs c'est ce que disait Marc-Antoine Elmezga tout à l'heure, au cœur de beaucoup de problématiques. Il a servi à beaucoup de choses dans l'Union soviétique et puis dans la Russie. Il a servi en termes macroéconomiques, ce que vous indiquiez en parlant de rente, donc ça permet d'acheminer vers la banque centrale des afflux en devises qui sont extrêmement importants et qui l'ont été depuis l'Union soviétique. Ça permettait à l'Union soviétique de financer un certain nombre d'importations technologiques dans les années 70. Donc cette relation-là était forte dès cette période-là, avant l'existence même de Gazprom. Ça permettait aussi, et ça a continué à l'être, mais sous des formes différentes plus tard, d'être un véritable outil diplomatique de relations pacifique à certains moments, et puis dans les mains de Vladimir Poutine, un outil diplomatique de coercition. C'était déjà le cas en réalité dans les années 2000. On n'a pas attendu 2014 pour le repérer. Il suffisait de voir la différenciation des prix que Gazprom faisait en fonction des différents pays d'Europe centrale et orientale, entre par exemple la Serbie qui bénéficiait de prix tout à fait favorables et puis la Pologne qui devait payer le prix fort, pour voir que on avait une logique de punition-récompense dans l'approvisionnement en gaz. Et puis il y a deux autres éléments tout à fait fondamentaux du gaz concernant la Russie, qui cette fois-ci sont internes. Le premier, c'est son rôle fiscal. C'est-à-dire que depuis très longtemps, depuis les années 90, c'est-à-dire depuis que la fiscalité s'est mise en place sous une forme occidentale en Russie, Gazprom est devenu un pourvoyeur central de recettes fiscales de l'État russe. Et le quatrième point, c'est que Gazprom est aussi une entreprise qui joue un rôle social.
500 000 emplois, je crois.
Oui, 500 000 emplois, bien sûr, mais surtout l'approvisionnement en gaz, sachant que le gaz représente plus de 40% de la consommation énergétique primaire en Russie, donc c'est tout à fait considérable, l'approvisionnement en gaz d'une très grande partie de la population, en tolérant des non-paiements, en donnant la possibilité aux citoyens et aux industries de s'accommoder de certains prix. Bon, tout ça est en train d'être remis en question. Du fait de la guerre, du fait des transformations géopolitiques, le rôle du gaz dans l'économie russe et dans sa relation avec le reste du monde a complètement changé, en fait.
Mais Thierry Brosse, le paradoxe, c'est qu'en fait, la Russie exporte du gaz naturel liquéfié, non seulement du gaz gazeux vers la Chine, en particulier, à prix cassé. Et je crois que Xi Jinping refuse toujours un deuxième gazoduc. Néanmoins, il y a du gaz liquéfié russe qui va en Europe et qui n'est pas sanctionné.
Oui, effectivement. Donc, il y a eu ce gazoduc qui a été construit, encore une fois, dans cette vision amitié et loyauté avec la Chine, à un prix d'ami. Et vous avez des unités de liquéfaction en Russie qui alimentent l'Asie et qui alimentent l'Europe. Et face à la crise gazière de 2021, nous nous sommes tournés européens vers le gaz naturel liquéfié, d'où qu'il vienne, et en particulier de la Russie, puisque finalement, il est assez près. Et donc, oui, le gaz naturel liquéfié russe aujourd'hui, cela représente à peu près 8% de notre consommation en Europe. Donc,
Et donc, malgré l'Ukraine, malgré les sanctions, il n'a jamais été question d'interrompre ce flux.
Non, il n'a jamais été question. Le Repower EU de la Commission européenne imagine des sanctions pour le gaz russe, gaz gazeux et gaz naturel liquéfié à l'horizon 2027, parce que l'on sait que nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui d'avoir du gaz ailleurs. Et en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la production de gaz supplémentaire pour alimenter l'Europe. Et donc, pour le moment, nous gardons ce gaz naturel liquéfié russe et ce gaz gazeux, puisqu'une partie du gaz russe remonte via la Turquie en Hongrie. Et donc, nous sommes dépendants de la Russie pour ces approvisionnements-là. Pour le gaz naturel liquéfié, il semblerait qu'il amène un peu moins de taxes, un peu plus de devises, mais un peu moins de taxes à la Russie de Poutine.
Mais donc, Marc-Antoine Elmazaga, cela nous renvoie à la vulnérabilité de l'Europe par rapport à la Russie, on vient de le comprendre, par rapport évidemment aux États-Unis. Il y a d'autres fournisseurs, pourtant, sur le marché du gaz.
Absolument. Alors, on achète aussi du gaz à la Norvège, qui est là depuis toujours, essentiellement par gazoduc sous-marin. On en achète beaucoup moins, mais néanmoins à l'Algérie. Alors ça, c'est le cas en particulier de l'Espagne, et puis un peu de la France. Et puis, il y a un petit gazoduc qui nous relie à l'Azerbaïdjan. Ça intéresse en particulier les Italiens et les Turcs et les Grecs. Et puis du GNL.
Qatar.
Alors, le Qatar, en fait, alimente essentiellement l'Asie. c'est-à-dire le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, etc., un peu la Chine. Mais le Qatar, en fait, est plus orienté vers cette zone-là du monde. Alors, il contribue à l'équilibre général, et donc ça nous aide indirectement, et ça nous permet, nous, d'accaparer les flux nord-américains. Alors, il y a aussi, de temps en temps, le Brésil, etc., qui remonte un peu ses achats, parce qu'il y a pas mal de variations liées notamment à la disponibilité de l'hydroélectricité dans le monde, et ça a aussi un impact évidemment sur ces flux-là. Mais
le Canada n'est pas du tout
dans le tableau. Non, alors il est dans le tableau de plus en plus pour les pays asiatiques parce que il ouvre des usines, en tout cas une qui est orientée vers ces pays-là sur la côte ouest du Canada. Pour nous, à terme, le Canada pourrait jouer un rôle pour la fourniture, par exemple, de molécules décarbonées de type ammoniac, méthanol. Ils ont au côté atlantique un Québec Hydro qui est assis sur un formidable parc hydraulique. Donc, ils produisent de l'électricité très bas carbone, pas cher. Et donc, on pourrait transformer ça en tout un tas de produits. Mais pour l'instant, ils n'apparaissent pas, en tout cas pour l'Europe, comme fournisseurs. Par contre, ils nous intéressent pour les métaux, par exemple, les Canadiens.
Les menaces de Donald Trump vis-à-vis des Européens, on sait vraiment qu'il ne nous aime pas du tout. Néanmoins, les acteurs du marché du gaz sont privés, les acteurs américains du marché du gaz. Donc, que peut faire l'administration fédérale américaine? Que peut faire la Maison-Blanche? Quoi? Augmenter les taxes? Ils ne peuvent pas empêcher les producteurs privés de vendre.
Non, alors, ça, ils ne peuvent pas faire. Ce que peut faire l'administration, c'est, en principe, faciliter, évidemment, le permitting, les autorisations pour construire de nouvelles usines. Mais on l'a rappelé tout à l'heure avec Anne-Sophie, encore faut-il que derrière, il y ait des contrats et donc des financements. Encore faut-il qu'il y ait des infrastructures pour amener le gaz vers ces usines. Et donc, c'est ça, c'est compliqué aux États-Unis de construire des infrastructures comme chez nous. Donc, il peut essayer de forcer la main en disant, engagez-vous européens à acheter plus chez nous, mais on achète déjà et on va cette année acheter beaucoup plus parce qu'il faut qu'on remplisse davantage nos stocks de gaz. Après, il peut menacer éventuellement, un peu comme les Canadiens face aux Américains qui réfléchissent à mettre des taxes sur l'exportation d'hydrocarbures. Donc, on pourrait imaginer éventuellement une taxe qui nous frapperait indirectement, mais enfin qui dirait, je renchéris le GNL américain, de toute façon, vous en avez besoin, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de l'acheter. Voilà. Mais la crédibilité du fournisseur serait remise en cause, la crédibilité du gaz serait impactée dans le monde entier, dans le monde entier. Or, la promesse de Trump, c'est aussi, j'apporte au monde entier de l'énergie bon marché américaine pour apporter de la croissance, de la prospérité, du développement. Bah, tout ça serait mis à mal. Et donc, et encore une fois, vous l'aviez rappelé, il n'y a pas de producteur étatique aux États-Unis, c'est une multitude d'acteurs privés qui font ce qu'ils veulent. Et heureusement.
Anne-Sophie Corbeau, vue depuis New York, on sait que Donald Trump est obsédé, enfin, l'homme est obsédé par beaucoup de choses apparemment, mais notamment par l'Alaska. Pas seulement le Groenland, mais l'Alaska. Et donc, il y a ce projet de construire 1300 kilomètres de gazoduc pour forer en Alaska et acheminer du gaz vers le territoire qui est plus au sud des États-Unis. Et je crois que ce projet est évalué à quelque 44 milliards de dollars. Comment, dans la conjoncture actuelle et avec le ralentissement de la croissance mondiale et de la croissance américaine que l'on peut craindre dans les mois et sinon les années qui viennent, comment est-ce que l'administration Trump peut poursuivre ce projet Alaska?
Alors c'est exact que ce projet semble être une véritable obsession en fait pour Donald Trump. C'est un très gros projet, hein. C'est 20 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça serait à peu près un petit peu moins de 20% en fait de la capacité d'exportation actuelle de gaz naturel liquéfié américain. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, Donald Trump, dans le cadre donc de ces conflits commerciaux avec différents pays, essaie de convaincre les Japonais, les Coréens, les Taïwanais et d'autres Asiatiques que pour combler leurs déficits commerciaux avec les États-Unis, il faut qu'ils achètent ce gaz naturel liquéfié américain et en particulier investir dans ce projet en Alaska. Alors, le problème en fait de ce projet, alors il a un avantage, c'est qu'il est situé du bon côté pour les Asiatiques, parce que ça leur évite en fait pour les méthaniers de passer par le canal de Panama. Mais le problème, c'est l'aspect commercial. C'est un projet qui, comme vous l'avez dit, coûte 44, enfin est estimé pour le moment, excusez-moi, à 44 milliards. On peut s'imaginer qu'avec les tarifs sur l'acier, l'aluminium, etc., ce coût va probablement augmenter. Et moi, en général, quand je vois ce genre de projet éloigné de tout, un énorme projet, je sens venir l'explosion des coûts, mais alors à très milieu à la ronde. Donc, moi, je serais très inquiète. Mais déjà, rien qu'en l'état des lieux, la plupart des gens avec qui je parle, en particulier les Japonais et les Coréens, me disent, nous, ce qui nous inquiète, c'est l'aspect commercial. On pense que ce gaz va être extrêmement cher. Et donc, ils ont vraiment pas très envie, en fait, d'investir dans ce projet. Donc, en fait, c'est vraiment une mesure de coercion de Donald Trump vis-à-vis des gouvernements de ces différents pays asiatiques pour leur dire il faut que vous achetiez du gaz naturel liquéfié américain.
Ajoutons et justement, pardon, je vous interromps.
Dans cette manœuvre de
mais on sait que le Japon a commencé à négocier avec Donald Trump sur les tarifs douaniers. Est-ce qu'on peut imaginer que parmi les arguments pour presser les Japonais de plier sur les droits de douane, sur les biens, sur les exportations japonaises aux États-Unis, précisément le projet Alaska soit utilisé par Donald Trump?
Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, le gouvernement japonais a déjà indiqué qu'il était disponible et disposé à parler, à regarder en fait ce projet Alaska LNG. De même, certaines compagnies comme Mitsubishi ont aussi indiqué que bon, ils étaient disposés à faire un investissement, qu'ils regardaient. Pour le moment, on est à l'état de regarder. Mais ça n'enlève pas le problème, qui est que ce projet, pour le moment, en termes d'intérêt commercial, n'est pas du tout intéressant. Mais je voudrais en fait peut-être regarder le problème du GNL par rapport aux échanges commerciaux d'une façon plus globale. J'ai fait un petit calcul que j'ai posté sur LinkedIn vendredi, c'était le 4 avril je crois, pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait exporter en termes de gaz naturel liquéfié américain pour combler les déficits commerciaux avec donc les pires pays, c'est-à-dire la Chine, l'Union européenne, le Japon, la Corée, Taïwan, le Vietnam, l'Inde, Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Et petit calcul vraiment de base, il faudrait en fait que les États-Unis exportent l'intégralité de la production mondiale de gaz.
Ah oui, de la production mondiale, pas seulement de la production américaine.
La production mondiale de gaz. Et nous autres Européens, il faudrait en fait qu'on importe 20 fois plus de gaz naturel liquéfié que ce qu'on a importé en 2024. Donc c'est complètement ridicule de se dire que le gaz naturel liquéfié va combler quelques déficits que ce soit. C'est ridicule, c'est une goutte en fait d'eau dans l'océan. Ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des conflits qui sont émergents. La Chine, donc, qui avait été frappée par des tarifs, des droits de douane dès le début de février, n'a plus importé un seul cargo de GNL depuis le 6 février 2025. Donc, on a déjà un conflit qui est en train d'apparaître au niveau du gaz naturel liquéfié. Et ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire qu'on pourrait taxer le gaz naturel liquéfié, mais c'est une très 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 mauvaise idée. Parce que si vous taxez le gaz naturel liquéfié, vous tuez complètement tous les projets que Donald Trump, en fait, veut aider à prendre une décision finale d'investissement. Vous allez tuer tous les investissements futurs en termes de gaz naturel liquéfié, parce que le gaz naturel liquéfié américain sera non seulement cher et non compétitif par rapport aux autres fournisseurs potentiels de gaz naturel liquéfié, mais en plus, il aura un risque politique associé absolument énorme. Donc ça serait totalement contre-productif.
Écoutez, j'espère que vous n'allez pas être expulsé immédiatement du territoire américain pour tenir des propos aussi critiques. Anna Créti, venons-en à un autre aspect qui est quand même majeur, qui est celui de l'environnement. Parce que le gaz naturel liquéfié, ce n'est pas très bon, d'après ce que j'ai compris. Je crois que c'est l'empreinte carbone la plus élevée par rapport à d'autres formes d'énergie. Il y a des fuites de méthane quand on exploite le gaz de schiste. Comment évaluer l'utilité et la valeur du GNL? On comprend bien que pour nos économies, et en Europe en particulier, l'importation de GNL reste prioritaire. Néanmoins, il y a un coût certains en termes d'environnement et le transport maritime aussi.
Oui, absolument. On n'est pas sur des ressources qui vont aider la planète. Et ceci, par ailleurs, ni en Europe ni aux États-Unis. Mais Trump a commencé son mandat déjà en mettant une très forte, discréditant complètement tout ce que les États-Unis avaient fait. Avec certaines lanternes, mais quelque chose était en train de bouger sur tout ce qui est le front climatique. Donc c'était la prémisse nécessaire pour pouvoir crédibiliser de son côté la renaissance du secteur oil and gas. Une fois que les intérêts environnementaux et climatiques ont été balayés du terrain, il pouvait donc exprimer son rêve de dominance énergétique qui est aussi un cauchemar climatique. Donc c'est vrai que la qualité environnementale du gaz de schiste est très mauvaise de par donc de ses moyens d'extraction. À cela on rajoute toutes les émissions dans qui sont engendrées par les gaz non captifs, donc les méthanes comme vous le disiez, l'impact environnemental sur les lieux où d'extraction de gaz de schiste qui sont complètement ruinés du point de vue de la biodiversité, de l'usage de l'eau. Et ensuite, on rajoute les transports qui n'est fait qu'augmenter l'empreinte carbone de ces importations. Il y a également un autre contrefacteur qui se rajoute au bilan environnemental de ces changements de route du GNL et des réactions aussi des pays potentiellement importateurs de gaz, notamment de l'Asie, c'est les retours du charbon. Alors, il y a un retour potentiel du charbon déjà aux États-Unis, parce que l'idée de délivrer aussi de l'énergie à prix faible signifie également, dans cette augmentation de la production, de réactiver la production de charbon.
Oui, d'ailleurs, Donald Trump a posé pour la postérité, enfin pour l'histoire, entouré de mines, casquées.
Oui.
Le rôle de l'image est toujours évidemment
très présent.
Important.
Sauf que ça va se faire aussi hors États-Unis, notamment la Chine, parce que la Chine, si elle n'achète pas, donc si elle fait ses moratoires sur les GNL américains, elle a quand même besoin d'énergie, elle a du charbon,
elle a du gaz russe.
Elle a du gaz russe, donc de toute façon, les manques à gagner américains devient une inflation aussi de gaz à effet de serre qui proviennent du charbon.
Marc-Antoine Elmazega, il faut bien dire que l'Europe aussi est en proie à toutes sortes de contradictions entre le Green Deal, les besoins en donc sécurité énergétique, décarbonation et en même temps de l'énergie bon marché. Donc, avec les pressions internationales sur tous les fronts, l'Europe se bat sur plusieurs fronts à la fois.
C'est assez inédit et comme le rappelait Thierry Brosse tout à l'heure, en fait, on a conçu cette stratégie de décarbonation initialement sans le volet industriel et sans prêter attention à l'enjeu de la sécurité d'approvisionnement. Or, on reste encore profondément ancré dans les hydrocarbures et dans les énergies fossiles en Europe. Alors, la tension est maximale, la pression est maximale, parce qu'il y a une érosion industrielle. On a une baisse de la consommation de gaz en Europe, mais qui est en grande partie liée au fait qu'un certain nombre d'industries sont soit à l'arrêt, soit très ralenties, et pourraient d'ailleurs s'arrêter. Donc il faut limiter les dégâts, impérativement, et puis il faut aussi préparer la suite, parce que on va arriver dans un système où, parce qu'on a de plus en plus d'énergies renouvelables intermittentes dans le système électrique, il va falloir équilibrer cela. Et donc, la façon d'équilibrer, c'est côté demande, évidemment beaucoup plus de flexibilité chez les consommateurs, les particuliers, mais surtout dans l'industrie. Et ça, c'est un immense chantier qu'on ne fait que commencer. Mais par contre, il faut aussi, côté production, avoir de la flexibilité. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en réalité, des centrales à gaz flexibles, donc beaucoup de capacité, pas forcément beaucoup de consommation de gaz, mais il y aura des moments où il va falloir pouvoir turbiner énormément de gaz dans ces centrales, par exemple les jours où il n'y a pas de soleil ni de vent en Europe. Et donc, énormément de défis. Enfin, il faut quand même le rappeler, et Thierry y faisait allusion tout à l'heure, mais on a dans l'industrie, on va encore rester sur la case gaz naturel, sans doute plus longtemps que prévu, parce que tout un tas d'industriels qui pensaient faire des investissements soit dans l'électrification, soit dans l'hydrogène, ceux-là n'ont plus d'argent, ou sont très préoccupés par l'avenir de leur secteur d'activité, et donc vont sans doute rester sur la case gaz naturel plus longtemps que prévu.
Thierry Brosse, en France, il y a l'énergie nucléaire. On a vu à quel point l'EDF, avec un changement de direction, est évidemment pressé par les pouvoirs publics pour produire davantage de nucléaire. C'est un atout pour la France.
Mais oui, on peut faire cocorico de temps en temps. On peut se dire que finalement, la seule transition énergétique qui ait déjà été faite, c'est la transition énergétique française qui, dans les années 70, a mis ce nucléaire qui permet à la France d'avoir l'électricité la moins carbonée ou une des moins carbonées au monde. On a une électricité qui est 20 fois moins carbonée qu'une électricité en Pologne, par exemple. Et donc, oui, c'est cela. Et donc, c'est d'ailleurs ce que l'administration américaine souhaite faire pour le très long futur, c'est-à-dire relancer le nucléaire occidental pour alimenter ces data centers et cette intelligence artificielle qui va demander beaucoup d'électricité décarbonée. Donc la France, oui, et d'ailleurs c'est ce que le président Macron proposait. Il proposait des data centers le plus proche des centrales nucléaires pour pouvoir bénéficier de cette énergie décarbonée dont les grands de l'informatique ont besoin aujourd'hui.
Et donc cela veut dire qu'en Allemagne en particulier, où en fait la dépendance au gaz russe a été accrue par la sortie du nucléaire décidée par Mme Merkel pour des raisons d'équilibre politique à l'époque, est-ce que d'autres pays européens pourraient de la même manière accroître leur production nucléaire?
Alors, vous avez vu l'Italie qui souhaite effectivement revenir sur le moratoire. Vous avez vu le président Macron qui souhaiterait qu'on construise des réacteurs nucléaires, mais on n'y arrive pas très, très vite. Et puis, vous avez ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que c'est assez important de voir. C'est qu'aux États-Unis, on est en train de relancer des centrales qui ont été fermées, mais aussi de booster, alors en termes techniques, ça s'appelle un upgrade, de booster les réacteurs qui aujourd'hui produisent pour qu'ils produisent plus demain. Et donc, en faisant ça, vous êtes en capacité d'augmenter votre capacité nucléaire de l'ordre de 10%. Donc oui, c'est le nucléaire vers lequel aujourd'hui les regards se tournent pour l'après-2040.
Julien Vercueil, s'agissant de la Russie, il y a une forme de découplage entre le gaz russe en particulier, le gaz, le pétrole, de découplage entre la Russie et l'Europe, même si, on l'a compris, il y a encore des exportations non sanctionnées d'énergie russe vers l'Europe. Comment est-ce que l'économie russe peut continuer à fonctionner dans de telles conditions, sauf à imaginer que les États-Unis encouragent les Européens le verbe encourager n'est sans doute pas le bon, a renoué avec le gaz russe. Et on a pu lire ici ou là, en particulier dans le Financial Times, qu'il y avait un très grand ami de M. Poutine, qui était, je crois, le patron de Nord Stream 2 en Allemagne, qui serait en pourparler avec des financiers américains pour relancer le Nord Stream 2.
Oui, là, on est vraiment dans des scénarios tout à fait nouveaux, absolument pas envisagés jusque-là. Il faut voir d'où on part, c'est-à-dire qu'on est maintenant à une consommation européenne de gaz russe qui a été divisée par 7 entre 2021 et maintenant. Et comme le gazoduc qui passe par l'Ukraine a été arrêté complètement, il y a encore une division par deux en 2025 par rapport à cela. Donc il n'y a plus que le petit filet venant de Turquie qui alimente l'Union européenne pour le gaz par gazoduc.
Alors on a parlé. Il faut rappeler qu'il y a un Nord Stream qui a explosé.
Il y a des capacités absolument phénoménales par gazoduc. Continue d'exister sur le terrain entre l'Union européenne et la Russie, plus de 200 milliards de mètres cubes par an de capacité de transport qui sont vides. C'est ce qu'on appelle des actifs enlisés. Là, pour le coup, ils sont vraiment enlisés.
Là, on parle du Nord Stream 2. Hein.
On parle de tout. On parle à la fois du grand gazoduc Druzhba soviétique qui passait par l'Ukraine et qui est complètement inutilisé alors qu'il a une capacité de 110 milliards. Et puis, on parle des deux Nord Stream, le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2, qui passent sous la mer Baltique et qui ont chacun une capacité de 55. Donc, on parle de quantités absolument phénoménales qui sont maintenant inutilisées, enfin, de capacités phénoménales qui sont inutilisées. Ça, c'est la première chose. Donc, ça voudrait dire rebâtir quelque chose sur des ruines, enfin quelque chose qui aujourd'hui est une sorte de filet qui n'a plus aucun sens et aucune utilité économique et qui a coûté des dizaines de milliards aux investisseurs. Donc voilà d'où on part. Ce sera pas simple. La deuxième chose que je voulais dire sur la Russie, c'est plus globalement, la Russie a aussi dû faire face à un changement de la direction de ses exportations de pétrole. Et donc là, c'est l'ensemble de la rente pétrogazière qui a été touchée. Et quand on analyse avec les données qu'on peut utiliser, qui sont pas forcément des données russes, mais qui sont des données miroirs des pays qui travaillent avec la Russie, quand on analyse les données du commerce extérieur de la Russie, on se rend compte qu'en fait, évidemment, pour ce qui est du gaz, la Chine n'a absolument pas remplacé l'Union européenne. Hein. C'est en gros un quart de ce que l'Union européenne pouvait consommer. Pour ce qui est du pétrole, les exportations se sont réorientées de manière beaucoup plus massive vers cette fois-ci l'Inde et la Chine qui ont joué un rôle de compensateur tout à fait massif, et que donc la rente pétrogazière ne s'est pas tarie en Russie. Elle a continué, malgré les sanctions, à abreuver les finances publiques d'une part, mais également les réserves en devises de la Banque Centrale de Russie. Ça, c'est extrêmement important de comprendre que finalement, ce qui était d'une certaine manière au fondement du modèle structurel de croissance de la Russie dans les années 2010, a continué de l'être jusqu'à aujourd'hui. Et la grande interrogation, c'est qu'est-ce qui se passe quand ce modèle qui n'a pas changé, qui s'est juste réorienté géographiquement, qu'est-ce qui se passe lorsque les prix internationaux du pétrole ne sont plus à 100, mais deviennent à 50, voire moins.
Et apparemment, on sait qu'en dessous de 60, si le cours du pétrole est en dessous de 60, et on y est pratiquement, cela veut dire que l'effort de guerre russe n'est plus financé par les ressources énergétiques russes.
Je suis un peu plus prudent que cela. Je pense que, en fait, il y a eu 4 crises en Russie depuis 1998. Ces 4 crises, elles correspondent à un prix du baril qui était descendu en dessous de 40. Hein. Donc, je serais un petit peu plus prudent. Je dirais que c'est quand même un peu en dessous que les effets de la baisse de la rente pétrolière deviennent complètement incontrôlables pour les autorités russes. En revanche, je pense que tant que le prix du baril reste largement au-dessus de 45-50, malgré l'extraordinaire distorsion que la guerre entraîne sur l'économie de la Russie, il y a encore des marges de manœuvre pour le pouvoir russe pour continuer sa guerre en Ukraine.
Mais Anacréti, on peut imaginer que dans ce grand fracas déclenché par l'administration Trump II, on voit bien les intérêts financiers qui pourraient pousser différents protagonistes à se dire, comme vient de l'expliquer Julien Vercueil, il y a ces infrastructures qui ne servent à rien, elles ont coûté horriblement cher, tout ça est absurde, et pour nous autres Européens, on peut imaginer aussi qu'il y ait des acteurs privés qui disent ben, « reprenons du gaz russe ». Ou est-ce que ça paraît à ce stade un scénario impossible ?
Disons que pour l'instant, on a des engagements avec les producteurs américains parce que au moment où on a acheté le gaz américain, au pire, au moment de la crise, on a quand même signé des contrats. Ce sont des contrats à 2 ans. Donc, effectivement, ça laisse encore un peu de temps pour comprendre l'évolution du marché mondial du GNL. Et est-ce que donc on peut revenir en arrière et dire bon les risques géopolitiques au fait il s'est déplacé à nouveau vers les États-Unis, ce qui était aussi la théorie de Merkel.
Et on oublie l'Ukraine. Tant pis pour l'Ukraine.
Ben c'est un peu passant. Ça le problème. C'est-à-dire que il y a comme on passe sur un équilibre géopolitique, il y a aussi toutes les questions, pas seulement économiques, mais aussi les questions diplomatiques, les engagements aussi européens vis-à-vis de la protection de l'Ukraine et de la fin souhaitée de ces conflits. Donc il y a un équilibre très très difficile à trouver entre les intérêts économiques et aussi tout ce qui est diplomatique. Comme le rappelait Thierry, on n'a pas d'engagement dans les sanctions. Donc, du point de vue strictement commercial, c'est vrai que sur les papiers, c'est possible d'augmenter les importations de GNL.
Que ce soit clair, donc il n'y a pas de sanctions européennes sur le gaz liquéfié russe.
Sur le gaz russe tout court.
Sur le gaz russe tout court, gaz gazeux et gaz liquéfié.
La raison pour laquelle, rappelons-nous pourquoi on en est arrivé là, alors qu'on a décidé des sanctions sur le pétrole et des sanctions financières aussi pour tout ce qui était, par exemple, les assurances qui sont liées au commerce de pétrole, on n'a pas pu étendre ces mêmes sanctions au gaz parce que l'idée, c'était de dire il y a des pays qui sont enclavés et des pays qui sont dépendants, justement, même géographiquement, des infrastructures russes. Il y avait le rôle prépondérant de la Hongrie, qui n'a jamais voulu lâcher sa position, un peu ambiguë d'ailleurs. Donc, on a décidé que sanctions vis-à-vis du gaz russe, d'où qu'il vienne, n'étaient pas faisables.
Anne-Sophie Corbeau, vous expliquiez tout à l'heure les contradictions des mesures déclenchées par l'administration Trump concernant les ambitions de produire donc de l'énergie bon marché américaine. Il y a aussi, bien évidemment, dans la politique, l'abandon d'une politique climatique américaine, une contradiction par rapport aux importations nécessaires venues de Chine. Parce qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de composants d'énergie propre qui sont chinois, est-ce que cela veut dire que les États-Unis vont complètement abandonner toute ambition en matière de renouvelables, par exemple?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand, en fait, Donald Trump a publié son ordre exécutif sur la National Energy Emergency, il y avait tout en bas la définition de l'énergie. Et dans cette définition d'énergie, on avait tout sauf l'éolien et le solaire, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup fait rire. Donc, effectivement, ni l'éolien ni le solaire ne sont particulièrement en odeur de sainteté. Mais ça ne veut pas dire, parce que bon, c'est quand même un État fédéral, que rien ne va se passer. Par exemple, si on prend un État comme le Texas, c'est à la fois le premier producteur de pétrole, de gaz, mais aussi le plus gros producteur d'énergie éolienne. Donc, et tout est nuancé, en fait. Je ne pense pas que les États-Unis vont totalement arrêter les investissements dans l'éolien et le solaire. Ce qui est clair, c'est que définitivement, au niveau de Washington, il va y avoir très très peu de support. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est que ça risque à terme d'avoir en fait un impact aussi sur la demande de gaz domestique et peut-être même aussi sur la demande de charbon domestique, puisque si on a moins d'électrons qui viennent du solaire et de l'éolien pour alimenter la demande des data centers, alors il va falloir recourir à des énergies qui sont des énergies fossiles et donc probablement au gaz et au charbon, ce qui peut encore une fois renchérir en fait le coût du gaz domestique, surtout dans une phase où on a vraiment en fait beaucoup d'exportations de deux nouvelles unités de liquéfaction qui vont arriver sur le marché au niveau donc des États-Unis. Là aussi où il y a une contradiction, si je peux me permettre de revenir sur la question précédente, c'est que si on a quelques acteurs américains qui effectivement tentent de promouvoir le retour de Nord Stream 2, c'est absolument pas dans l'intérêt des États-Unis en tant qu'exportateurs de gaz naturel liquéfié d'avoir du gaz russe qui revienne sur le marché, que ce soit Nord Stream 2 qui est quand même, enfin si on avait juste un seul des gazoducs de Nord Stream 2, celui qui apparemment n'a pas été endommagé, revenant sur le marché, c'est à peu près en fait la même capacité que Alaska LNG. Donc c'est un gros gazoduc. Et ça, pour moi, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied.
Mais après, une balle dans le pied, encore une fois, nous arrivons malheureusement à la fin très très provisoire de cette conversation. Mais oui, ce qui est frappant, et je vous remercie tous les cinq de nous avoir ainsi éclairés, ce sont les contradictions précisément. Mais le mot de la fin, concernant l'Europe, parce que nous sommes quand même au premier chef concernés par nous-mêmes. Donc, brièvement, Marc-Antoine, quelle est notre marge de manœuvre par rapport à la Chine, avec laquelle il faudra bien essayer d'améliorer le dialogue, et par rapport à Washington?
Je crois qu'on a en fait une vraie opportunité de nous consolider, de renforcer notre intégration à travers cette crise. On a une Allemagne beaucoup plus stable, qui va dépenser plus. On a une Chine qui, en réalité, affaiblit par ces crises, et avec laquelle on va pouvoir peut-être faire un accord sur des investissements et sur le maintien, évidemment, de des efforts pour limiter le changement climatique. Et puis, avec les États-Unis, il nous reste encore des sujets de discussion, la sécurité, bien sûr, le nucléaire civil, tout un tas de technologies de rupture à venir. Heureusement, les liens ne sont pas rompus, mais il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. Et à Bruxelles, il y a vraiment un nouvel élan qui a lieu sur la politique industrielle, sur son lien avec la politique commerciale, une mobilisation sans précédent. Donc, c'est inédit.
C'est inédit. Merci de nous avoir éclairés au gaz, enfin sur le gaz, très mauvais jeu de mots. Marc-Antoine, vous signez une note de l'IFRI précisément sur France-Allemagne, un sursaut indispensable. Julien Vercueil, plusieurs papiers intéressants, et la semaine prochaine dans Le Monde, une tribune sur la situation de l'économie russe. Thierry Brosse, plusieurs papiers intéressants, et je rappelle votre ouvrage sur la géopolitique du gaz russe, qu'il faudrait peut-être mettre à jour. Anne-Sophie Corbeau, sur le site de l'Université Columbia, un papier en anglais sur l'impact de la guerre Russie-Ukraine. Et je n'oublie évidemment pas Anna Créti, vous co-signez avec Philippe Delacote et Philippe Quirion une tribune qui est parue dans Le Monde l'été dernier sur l'importance de trouver une forme de résilience, ce mot magique évidemment auquel on a recours tellement souvent. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, Valentin Bobinet à la technique, Laura Dutèche-Pérez m'a aidé à préparer cette émission avec la documentation de Radio France. Nous sommes samedi, voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.